Bienvenue en Tête à tête avec la science, le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'amplifier la voix des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante au doctorat, et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce 28e épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de discuter avec la chercheuse Dr. Marie-Ève Carignan. Dr. Carignan est professeure agrégée au département de communication de l'Université Sherbrooke. Elle est co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et directrice du pôle Média de la chaire. Dans le cadre de l'épisode, on discute de ses travaux portant sur l'impact des médias en société et lors de situations de crise, ainsi que sur les impacts de la désinformation et de la montée de la pensée complotiste. On parle aussi du livre « Mon frère est un complotiste » qu'elle a coécrit avec le professeur David Morin, qui aborde le portrait du complotisme au Québec et des pistes pour rétablir le dialogue social. À l'ère où la désinformation est un enjeu de société majeur et où on doit avoir des réflexions importantes à ce propos, c'est une discussion que j'ai trouvée particulièrement pertinente. Dr. Carignan est une excellente communicatrice. J'aurais sincèrement continué à parler avec elle pendant des heures. Alors, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette superbe discussion. Bonne écoute! Parfait, donc on est parti. Donc, Dr. Marie-Ève Carignan, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, merci, et vous?
Oui, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse de vous recevoir au balado aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir un peu plus de vos travaux pendant la pandémie, puis au cours de l'hiver, votre livre « Mon frère est un complotiste » que vous avez coécrit avec David Morin a été ma petite lecture de chevet que j'ai beaucoup appréciée, puis que j'avais bien hâte de pouvoir discuter avec vous. Donc, en débutant, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours, quelles études vous avez faites et ce qui vous a amené à vous intéresser à vos thématiques de recherche actuelles.
Oui. Bien, si on passe à mon parcours, donc j'ai commencé finalement mon baccalauréat en communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai fait un bac en communication axé vraiment sur les enjeux sociaux. Donc, déjà, c'est quand même quelque chose qui me préoccupait, comment on pouvait intervenir pour améliorer la société, les problèmes sociaux, etc. Donc, c'est beaucoup des plans d'intervention, des plans de communication qu'on faisait là-bas. À la fin de mon bac, j'ai fait un stage au Conseil de presse du Québec, ce qui m'a amené à commencer déjà à m'intéresser aux médias, aux enjeux de confiance dans les médias, à l'éthique, à la déontologie journalistique. Après mon stage, j'ai été engagée au Conseil de presse, d'abord pour terminer un contrat, pour terminer dans le fond un dossier de plainte à l'étude, puis finalement, j'ai été engagée pour remplacer sur différents postes, d'abord un congé de maladie de quelqu'un qui faisait de la gestion de plainte, ensuite l'analyste principale qui est partie en maternité, jusqu'à ce qu'on m'ouvre un poste comme directrice des communications et analyste. Je suis restée au conseil de presse 7 ans en tout. En même temps que j'étais au conseil de presse, j'ai fait ma maîtrise en communication, toujours à l'UQTR. Mais aussi à Sciences Po Aix-en-Provence. Donc, mon terrain de maîtrise était à la fois au Canada et en France. Donc, j'ai travaillé avec Sciences Po Aix-en-Provence à la maîtrise. Et ensuite, j'ai décidé de passer au doctorat. Donc, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal et à Sciences Po Aix-en-Provence, donc en co-tutelle, encore une fois. Je m'intéressais vraiment à la médiatisation France-Québec, donc dans des perspectives comparatives. Mon doctorat était plus sur la communication de crise, donc comment la crise modifie les pratiques journalistiques et le contenu des médias. En parallèle, j'ai une carrière professionnelle, donc j'ai travaillé pendant quelques années comme directrice nationale des relations publiques chez Raymond Chabot, Grant Thornton, et dans ces années-là aussi comme chargée de cours à l'Université de Montréal, puis auxiliaire de recherche sur différents projets de recherche, ce qui a amené l'Université de Sherbrooke, quand elle a ouvert un poste en journalisme et relations publiques, finalement, à me retenir comme nouvelle professeure. Et donc, déjà, mes perspectives de recherche étaient beaucoup sur ça, relations de presse, relations publiques, parce que c'était mon parcours professionnel, mais beaucoup en jeu de la couverture médiatique, déontologie des médias et journalistes en temps de crise, donc les situations de crise, ce qui m'avait amené notamment à faire des travaux sur la couverture du terrorisme, de l'extrémisme violent. Et on a créé à ce moment-là environ la chaire de recherche dont je fais partie maintenant, mais au départ, bon, j'étais pas dans les co-titulaires. Donc, il y a David Morin, Raïda Hassan, Vivek Venkatesh qui ont créé la charte UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ils m'ont demandé, là, dès les débuts de la charte, de me joindre à eux pour créer un pôle média. Donc, justement, s'intéresser aux pratiques journalistiques, au rôle des médias face à la radicalisation, à l'extrémisme, au contenu des médias sur différents sujets comme ça. Et c'est par les travaux de la charte, j'ai continué donc à m'intéresser à ces enjeux-là. Puis un des enjeux qui était lié à ça, comme je le disais dès le début, c'était la confiance envers les médias. Donc la montée de la désinformation, des fausses nouvelles, par la bande, le complotisme, c'était un enjeu qui nous intéressait avant la pandémie. Là, la charte avait déjà des projets sur l'adhésion à des croyances alternatives chez les jeunes, tout ça, c'était un sujet qui nous préoccupait beaucoup. Ces projets-là ont pris de plus en plus de place avec la pandémie, certainement parce que la pandémie a été un facilitateur d'adhésion à ces thèses-là. Donc, ça a mis beaucoup l'emphase sur plus de visibilité de ces thèses conspirationnistes-là et de vitesse d'adhésion. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a travaillé encore plus intensément sur ces enjeux-là ces dernières années. Puis, qui nous a amené à donner beaucoup de conférences de formation dans des milieux de pratique qui s'inquiétaient de la situation du complotisme et qui nous demandaient est-ce qu'on peut trouver des moyens de mieux travailler ensemble, de faire face, créer une cohésion sociale ou une cohésion dans les milieux de professionnels, les milieux de pratique, malgré des croyances très divergentes. Et donc, ces formations-là, ces conférences-là nous ont amené à discuter avec les gens et on voyait que c'était vraiment un problème auquel un peu tout le monde faisait face, un ami, un collègue, une connaissance qui commence à avoir une adhésion de plus en plus forte à des thèses alternatives. Et c'est ce qui nous a amené à écrire le livre donc, dont vous parliez, « Mon frère est complotiste, comment rétablir le lien, le dialogue social ». C'est les gens nous disent « Est-ce qu'il existe un ouvrage qui peut juste nous aider à comprendre ce qui se passe, c'est quoi le complotisme, puis qu'est-ce que je peux faire ?» Puis David et moi, on disait « pas vraiment ». Et à un certain moment, on s'est dit « Bon, on devrait peut-être l'écrire, cet ouvrage-là qui sort un peu du contexte académique et donc qui devient grand public. » Alors, c'est ce qui m'a amené là, à travers mon parcours, à m'intéresser à ces enjeux-là et donc à travailler notamment beaucoup sur la désinformation et le complotisme.
Bien, vous avez un parcours qui est vraiment super intéressant, puis avant même la pandémie, qui semble justement vous avoir placé dans une position avec une expertise puis des expériences très pertinentes pour les enjeux auxquels on a été confrontés. Puis quand vous parliez que les enjeux de confiance par rapport aux médias, c'est quelque chose qui vous intéressait rapidement, je ne sais pas, dans ces années-là, est-ce que les réseaux sociaux sont encore présents? Est-ce que vous sentez à un moment donné qu'il y a eu un... C'est un phénomène qui a toujours été là, mais qui a été accentué dans le temps, ou est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, un point de rupture à un moment donné où il y a davantage de méfiance qui s'est installée face aux médias?
Mais c'est certain qu'il y avait toujours... Les premières années que j'étais au conseil de presse, c'est des années où on était en train là, de voir la naissance des réseaux sociaux numériques. Donc, on avait encore des gens qui étaient peu présents, qui commençaient à investir Facebook. Ça commençait à être connu, mais on était vraiment au tout début de ça. Donc, oui, j'ai vu l'évolution. Déjà là, ce que je voyais quand j'étais au conseil de presse, c'était chez certaines personnes une méconnaissance du rôle des médias, donc comment ils fonctionnent, le fait qu'ils ont justement... différents codes de déontologie qui régissent la profession, aussi une volonté des journalistes de préserver leur indépendance, de faire du mieux possible. Puis bon, pour avoir côtoyé des journalistes depuis plusieurs années, même s'ils ne sont pas à l'abri de l'erreur, je connais quand même leur volonté de bien faire. Puis il faut que tu sois certainement passionné pour choisir ce métier-là. Il y avait déjà ça qui existait. Donc, à la fois une mécompréhension du rôle des médias, de l'indépendance journalistique et bon, quand même aussi des discussions sur est-ce que les patrons, parfois, on avait eu des plaintes là, ces années-là au conseil de presse sur... de l'ingérence supposée de certains patrons sur le contenu. On était à l'époque des télé-réalités. Est-ce qu'il y avait des médias qui... on avait eu des plaintes notamment contre Québécois ou des... même le syndicat des journalistes disait Québécois nous pousse à couvrir nos télé-réalités pour donner de la visibilité au contenu de nos... disons, de nos autres frères et sœurs médiatiques. Mais c'était très difficile à prouver parce que un sujet devient intéressant, tous les médias en traitent. Donc là, quand on regardait, bien, la presse, Le Devoir en traitait autant que le Journal de Montréal, de Star Academy ou du Banquier ou autre. Donc c'était difficile, mais déjà on voyait que ce contexte-là de concentration, de mécompréhension était quand même présent. Les réseaux sociaux ont exacerbé ça dans le sens où, à la fois, ils ont fait passer une société qui avait besoin d'informations puis qui allait la chercher là où elle pouvait à une société qui est devant une surabondance d'informations. Là, on... c'est pas quoi choisir, quoi écouter, puis quoi retenir comme le plus fiable. Et là, beaucoup de gens, ben, ils vont choisir ce qui les intéresse, ce qui est dans le sens de ce qu'ils croient déjà. Donc, ça crée une certaine méfiance aussi, où ça a tendance à mettre sur un même pied d'égalité toute l'information. On l'entendait pendant la pandémie, souvent, faites vos recherches, vous allez voir que ce que les médias disent, c'est pas vrai. Comme si ce qu'on a trouvé chez nous dans notre sous-sol, en trouvant un PDF ou deux, trois infos, valait ce qu'un média qui a deux, trois sources d'informations qui vont lui confirmer quelque chose, valait la même chose. Donc, cette méfiance-là, cette disponibilité de l'information s'est exacerbée avec les réseaux sociaux, tout comme le discours que les médias mentent, que, bon, les médias sont financés par le gouvernement qui leur fait dire quoi dire. Donc, c'est un discours qui était présent, mais qui a eu beaucoup plus d'écho en ligne.
Une chose que je trouve intéressante, c'est que les réseaux sociaux avant, du moins quand j'ai commencé, moi, à m'en servir, c'était vraiment un réseau social, comme le nom le dit, où, bon, on mettait des photos de nos fins de semaine, des trucs avec nos amis, etc. Puis de plus en plus, on a vu différentes plateformes venir s'y installer et partager de l'information, même des plateformes de médias traditionnels, la presse, TVA, Le Devoir, etc., ont leur page Instagram, ont leur page Facebook. Donc, on dirait que c'est tout d'un coup, disons, quelqu'un qui n'écoutait pas nécessairement les nouvelles ou qui ne lisait pas le journal, bien, avec son compte Instagram, son compte Facebook qui se sert de façon sociale, s'est retrouvé aussi exposé à beaucoup d'informations. Donc, je trouve ça intéressant quand vous parlez que tout d'un coup, on s'est retrouvé justement exposé à une surabondance d'informations et que, naturellement, de par certains biais qu'on peut avoir, bien, on va se retrouver à choisir certaines sources plus que d'autres. Et d'un autre côté, ce que vous mentionnez par rapport à la mauvaise compréhension du travail des journalistes. Moi-même, il a fallu que j'aie une amie journaliste qui m'explique justement qu'il y a un code de déontologie, toutes les étapes qu'ils doivent passer avant de publier un article, la différence entre le journalisme factuel et le journalisme d'opinion, qui sont deux choses qui sont mélangées. Puis, en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a une mauvaise compréhension de ce travail-là et que ça contribue fort probablement à, puis vous saurez le dire mieux que moi, mais à entretenir la désinformation puis ce manque de confiance-là envers les institutions.
Certainement, il y a vraiment, non seulement on a peu d'éducation aux médias dans notre parcours académique, vous êtes la prof, vous parlez, côtoyer des journalistes pour apprendre comment fonctionne le métier, ce qui est inquiétant. On aurait besoin de plus de formation aux médias, mais uniforme aussi d'éducation aux médias à travers les écoles, parce que souvent, c'est une formation qui est censée être transversale. Donc, on est censé être éduqué aux médias par nos différents cours dans le parcours scolaire, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Puis, selon l'aisance de l'enseignant aussi, aborder ces thématiques-là, bien, ça va être plus ou moins abordé. Donc, c'est certain que pour pouvoir faire la distinction de ce qui est du journalisme factuel versus de l'opinion et ce qui crée beaucoup de méfiance parce que beaucoup de gens sont méfiants en disant que les journalistes sont pas neutres, mais c'est parce qu'ils réfèrent à des chroniqueurs, non pas à des journalistes d'information. C'est vraiment important d'apprendre ces distinctions-là, d'apprendre comment le journaliste fait son travail, vérifie ses sources, fait approuver ses textes, et d'apprendre aussi comment fonctionne le numérique. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un algorithme nous recommande de l'information en fonction de nos intérêts, en fonction de ce qui va nous garder captifs en ligne, ce qui est payant, le fait aussi que parfois, justement, les plateformes elles-mêmes ont des stratégies, puis parce qu'elles ne veulent pas être réglementées ou donner des redevances aux médias traditionnels, bien, elles vont orienter ce qu'on va recevoir comme résultat de recherche en fonction de ce qu'elles veulent bien nous montrer. Ça, elle peut être préoccupante, mais on est peu renseigné là-dessus. Donc, il y a vraiment à repenser l'éducation au fonctionnement du numérique, aux médias en général, à la pensée critique. C'est certain que ça ne réglera pas tous les problèmes. Nous, entre autres, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande méfiance qui s'est installée chez les citoyens envers à peu près tout le système politique, la démocratie, les chercheurs. Donc, il faut vraiment retravailler la confiance, mais une partie de ça passe aussi par la confiance envers les médias. Puis ça, il faut les comprendre d'abord pour faire des bons choix, puis être peut-être plus éclairé dans qu'est-ce qui nourrit dans notre décision comme consommateur. Après ça, on reviendra toujours à la personne à décider est-ce qu'elle fait confiance à un média plus qu'à un autre ou est-ce qu'elle préfère un type de média, est-ce qu'elle décide de faire confiance au journaliste citoyen, grand bien lui en face, mais au moins qu'elle soit consciente de avec quelles contraintes ça vient puis avec quelle qualité ou défaut potentiel. Et ça, je pense qu'on a un grand chemin à faire. Et enfin aussi, nous, ce qui est préoccupant, c'est qu'on voit que dans l'adhésion, par exemple, au complotisme ou à la désinformation, souvent, une bonne partie de la population qui adhère le plus, c'est les 18-55 ans. Donc, c'est des gens qui ne sont plus dans le milieu scolaire. Alors, forcément, c'est ailleurs qu'il faut aller les informer, les éduquer. Mm-hmm. Donc, il faut peut-être aller dans les milieux de travail, les milieux de pratique, les associations pour expliquer tout ça. Il y a un rôle des médias aussi de peut-être mieux vulgariser leur travail, mieux expliquer comment ils ont obtenu leur information, c'est quoi les limites d'un article ou de ce qu'ils font pour instruire le citoyen en même temps qui partage cette information-là aussi.
Oui, puis là, justement, on pourrait parler un peu plus des travaux que vous avez faits, que vous faites actuellement, mais avant de plonger là-dedans, j'aimerais peut-être qu'on on établisse la définition d'un mot qui risque de revenir souvent et qu'on a beaucoup entendu, mais le complotisme, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un mot qui a été utilisé peut-être un peu à toutes les sauces dans les dernières années. Donc, quel est le quand on parle de complotisme, de quoi on parle?
Oui. On en parle d'ailleurs dans le livre David et moi que complotisme a été parfois galvaudé, utilisé à toutes les sauces. C'est même devenu des fois un argument pour justement éviter le débat. Donc, il y a parfois des politiques ou des décideurs qui ont qualifié des gens de complotistes juste pour un peu les balayer la critique de la main puis éviter d'avoir une confrontation ou un débat avec des gens qui avaient parfois des critiques tout à fait légitimes, qui se posaient des questions sur les mesures sanitaires pendant la pandémie. Il y a des mesures sanitaires qui ne faisaient pas consensus. Moi qui travaille aussi en com-santé, c'est un des aspects que j'ai peut-être moins parlé de mon parcours, mais je travaille aussi beaucoup communication de crise, de risque, relations de presse, relations publiques, puis com-santé, donc comment on communique mieux les enjeux de santé publique. Et ce qu'on voyait quand on parlait avec des gens en santé publique, c'est qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec le passeport vaccinal ou avec le couvre-feu. Donc, ce n'était pas des mesures qui étaient nécessairement là, consensuelles, alors ce débat-là devait avoir lieu. Puis parfois, ben, complotistes évitaient d'avoir un débat sur des gens qui se posaient des questions légitimes. Donc ça, on en est très conscient. Et même, David et moi, on le dit souvent, quand on écrit le livre « Mon frère complotiste », on dit « Est-ce qu'on garde le terme complotiste? » Parce que c'est un terme qui est connoté. Ouais. Aussitôt qu'on parle de complotiste, il y a une vision des choses. Mais bon, après ça, on n'a pas le choix parfois d'appeler un chat un chat. C'est certain que ce qu'on voit souvent chez les complotistes, c'est qu'il y a des gens qui vont soit être vraiment fâchés de se faire qualifier comme ça, puis dès lors, ça rompt un peu le débat ou le dialogue, disons. Alors que d'autres vont même s'en servir comme argument en disant « Ben justement, moi, je suis quelqu'un qui... et critique de la société, donc il va reprendre le terme complotiste à son avantage. Mais en fait, quand on revient vraiment à l'étymologie du mot, qu'est-ce qu'on veut dire par complotiste? Mais un complotiste, c'est quelqu'un qui a tendance à croire que ce qui arrive en général en société, surtout l'adversité, donc les difficultés, les problèmes sociaux, s'explique par un complot qui est orchestré derrière ça par des grandes puissances, disons, occultes qui nous contrôlent. Donc que ce soit dans certains complots, ça va être... des gens qui sont d'une origine culturelle en particulier, d'une religion ou d'une minorité ethnique. On va parfois parler du gouvernement, des pouvoirs économiques, donc les grandes pharmaceutiques, où vous avez peut-être entendu George Soros, Bill Gates. Donc souvent des figures qu'on associe à des grandes puissances, les Illuminati, les francs-maçons. Mais bref, il y a toujours un bouc émissaire derrière à qui on prête la faute du complot. Et donc, un complotiste a tendance à pas seulement adhérer à un complot, mais ça devient une vision du monde construite, c'est-à-dire que tous les problèmes, les difficultés auxquelles la société est confrontée, on commence à les expliquer par ces complots-là. Et souvent, on le voit, nous, l'adhésion très forte au complotisme, c'est que croire un complot amène à en croire à d'autres. Donc, c'est un peu ça, finalement. Le complotisme, c'est quelqu'un qui a une vision de ce qui l'entoure, qui s'explique beaucoup par l'idée qu'on est en train de se faire contrôler, qu'il y a des complots derrière nous.
Donc, c'est toujours un peu l'idée qu'il y a une instance supérieure qui est en train de contrôler ou qui est responsable de certaines choses qui vont se produire. Puis, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est un peu le rejet de la version officielle de quand il y a quelque chose qui se passe, ben bon, l'explication qui va être véhiculée par les scientifiques ou par les médias, ben ça, automatiquement, ça va être rejeté par les gens qui adhèrent au complotisme.
Forcément, parce que ces gens-là ont l'impression qu'on leur dit pas la vérité. Puis que derrière ça, il y a toujours des gens qui essaient de contrôler le discours public à leur fin. Donc, soit on va penser que les médias, les autorités, les scientifiques font partie du complot ou qu'ils sont manipulés par ces gens-là qui sont dans le complot. Et donc, ça pousse toujours à rejeter la version officielle pour l'expliquer par un complot, une version cachée, pour plein de raisons. Donc, il y a des gens qui vont adhérer à cette version alternative-là en se disant « Ben, au moins, là, j'ai l'impression d'avoir une reprise de contrôle. Je comprends ce qui se passe. » Oui. Et je peux contrôler ce qui se passe. Donc, par exemple, pendant la pandémie, de se faire dire, bien, on ne sait pas encore exactement c'est quoi ce virus-là, d'où il vient, comment on va pouvoir le contrôler. Mais de se faire dire, il n'y en a pas de pandémie, puis c'est un complot par les gouvernements, par les pharmaceutiques ou autres, ça donne quand même une impression de reprise de contrôle sur ce qui se passe étonnamment. C'est aussi rassurant pour certaines personnes de se faire dire qu'on n'a pas de contrôle, mais là, ça peut aider à régler de l'anxiété, de la détresse, que d'avoir l'impression d'avoir une main sur qu'est-ce qui se passe réellement puis comprendre qu'on nous cache des choses. Et ben voilà, forcément, c'est un lien aussi qui est très fort avec la méfiance. Donc, plus qu'on est méfiant envers les autorités, plus plus qu'on a tendance à adhérer à cette vision-là des choses. Et vice-versa, donc c'est dur de dire, est-ce que c'est le fait que je suis méfiant du politique, du scientifique, du médiatique qui m'amène à croire au complot? Mais c'est certain que croire au complot crée cette méfiance-là envers notre système, notre société, notre démocratie. Alors, ça va un peu dans les deux sens.
Oui, puis je lisais aussi un rapport que votre chaire de recherche a publié, je crois, l'année passée. Vous dressiez un peu un portrait du mouvement complotisme au Québec. Donc, est-ce que vous pourriez en parler un peu de, bon, qu'est-ce qu'on sait du paysage de la pensée complotiste au Québec, quels sont les facteurs de risque, ce genre de choses-là?
Oui, ça, c'est un rapport qu'on a publié en mai, finalement, 2020, le rapport sur le complotisme au Québec, donc pour faire un état, justement, du paysage complotiste au Québec. Puis, on en a un sur lequel on travaille, qui est plus le pan-canadien présentement. Et ça faisait suite, justement, à tous nos travaux de recherche là, depuis les années de pandémie, où, dès le début de la pandémie, on avait eu un financement avec les instituts de recherche en santé du Canada pour comprendre un peu comment les gens à travers différents pays. Donc, on était en collaboration avec 8 pays et régions où on avait des chercheurs qui travaillaient ensemble pour comprendre un peu comment les différentes instances publiques communiquaient sur la pandémie. On a regardé le discours de l'OMS, le discours des institutions publiques de ces 8 pays-là. Et on voulait voir aussi comment les mesures étaient reçues par les citoyens. Donc, déjà à ce moment-là, on avait fait des sondages populationnels dans lesquels on intégrait des questions sur la désinformation, sur le complotisme, sur la confiance. Alors, c'est quelque chose qu'on regardait dès le début de la pandémie. Ensuite, au cours de l'évolution de la pandémie, on a décidé d'avoir un regard plus québécois et canadien pour y aller plus en profondeur sur ce qui se passait chez nous. Donc, à cette recherche-là, on a ajouté là, différentes recherches où on a fait notamment des sondages populationnels, c'est-à-dire qu'on a fait un sondage à plusieurs reprises au Québec, puis on a fait aussi un sondage pan-canadien pour voir l'adhésion au complotisme, puis à différents énoncés et le lien avec des facteurs d'adhésion et des facteurs aussi de réaction sociale. On a aussi fait, depuis le tout début de la pandémie, un analyse sur les réseaux sociaux numériques où on regardait justement différents leaders. Puis on est allé un peu d'une façon là, boule de neige où on avait identifié des leaders de différentes idéologies qui pouvaient partager des discours conspirationnistes. On a commencé à voir avec qui était en interaction, puis comme ça, à agrandir notre cercle là, pour voir c'était qui ces leaders-là, avec qui ils communiquaient, quel était leur type de discours. Et donc, pendant plus de 2 ans de pandémie, on a analysé à la fois le discours de ces gens-là, leur mise en réseau pour vraiment identifier les leaders, puis leur type de discours. Et donc, ce que le rapport sur le mouvement complotiste au Québec présente, c'est un peu le résultat de ça, notre analyse des réseaux sociaux, notre analyse des discours complotistes sur la pandémie, donc c'était quoi les types de croyances, puis notre analyse d'un sondage populationnel là, Québec-Canada, incluant des jeunes de moins de 18 ans sur l'adhésion finalement au complotisme.
Puis, est-ce que vous avez des exemples d'énoncés dans les sondages qui étaient utilisés pour mesurer l'adhésion au complotisme? Parce que j'imagine, ça me semble pas un concept qui est noir ou blanc. Ça me semble être un peu plus un spectre que quelqu'un peut peut-être un peu adhérer ou avoir un penchant vers la pensée conspirationniste et d'autres qui sont beaucoup plus un extrême et d'autres à un autre. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ça, est-ce que vous auriez des exemples de comment est-ce que cette adhésion-là est mesurée?
Oui, bien, c'est certain que déjà, là, ce qui est important de dire, c'est que pour nous, là, il n'y a pas une adhésion là, peu réduite au conspirationnisme. Donc, on avait différents niveaux. Donc, c'est pas parce que je crois un énoncé que je vais être qualifié de conspirationniste. Il y a certains énoncés pour lesquels c'est un peu normal d'adhérer puis d'avoir une certaine méfiance. C'est même sain de se dire qu'on pense pas, par exemple, que le gouvernement nous dit tout. Si je pense que le gouvernement nous dit tout puis est 100% transparent, je suis peut-être pas assez critique. Donc, il y a des énoncés qu'on comprend que c'est normal de dire « ben oui, j'ai l'impression que le gouvernement parfois me cache des choses ». Mais que le gouvernement me cache des choses importantes tout le temps, hein, sur tous les sujets, ben là, par contre, je tombe dans le complotisme. Donc, c'est cette nuance-là. Alors, nous, on avait des adhérents modérés, des gens qui, selon nos données, croient à certains énoncés conspirationnistes, mais pas à tout. Puis c'est des gens qui, donc, sont un peu, disons, entre deux chaises, peuvent basculer dans l'adhésion très forte, mais aussi peuvent tranquillement développer un sens plus critique, aller vérifier les thèses auxquelles ils croient, puis peut-être les nuancer. Et on avait les adhérents convaincus qui, eux, en général, ben, de toute façon, vont dire oui à tous les énoncés qu'on leur a soumis, donc ont tendance à vraiment là, croire à peu près tous les énoncés qu'on aurait pu leur exposer là, au sujet de la pandémie. Donc ça, c'était déjà je pense que c'est important à préciser que on a vraiment une différence là, dans les niveaux d'adhésion là, aux conspirationnistes selon nos analyses. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, là, je suis en train, dans le même temps que je vous parle, de retourner dans mon rapport pour avoir exactement les énoncés exacts qu'on a soumis, mais voilà, on s'est inspiré, dans le fond, des travaux de collègues qui travaillaient déjà sur le conspirationnisme, donc des travaux de Brotherton et collègues qui travaillaient déjà là-dessus. Bon, présentement, on est en train de faire un autre sondage, puis on prend d'autres échelles, justement, pour nuancer, puis voir. Mais donc, disons, dans les travaux de Brotherton, il y avait 4 grands types de complots qu'on pouvait mesurer. Et c'est un peu en s'inspirant de ça qu'on a posé les mêmes questions que Brotherton posait déjà dans leurs études. Donc, est-ce que, par exemple, les gens croyaient à différentes formes de contrôle de l'information, différentes formes de malversation gouvernementale, croyaient à des conspirations internationales, croyaient aussi qu'on cachait des menaces à la santé ou aux libertés. Donc, c'est 4 grands types de complots auxquels les gens pouvaient croire. Là. Et donc, on posait plusieurs énoncés sur chacun de ces types de complots-là, auxquels on avait ajouté là aussi des énoncés plus spécifiques en lien avec la pandémie, le Québec, notamment si les gens croyaient aussi à QAnon. On avait aussi un énoncé pour savoir si les gens croyaient à des mouvements comme l'idéologie incel, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à croire que le féminisme est vraiment une stratégie, dans le fond, pour contrôler la société. Et on avait quelques questions aussi sur la désinformation environnementale. Donc, on avait vraiment là un spectre assez large d'affirmations conspirationnistes qui nous permettaient justement de voir là si les gens croient tout ça, c'est qu'il y a une vision assez construite là, du conspirationnisme.
Mais c'est vraiment intéressant que vous ayez justement ces différents aspects-là parce que ça me fait penser quand vous disiez justement que le terme est un peu galvaudé, qu'aussitôt que quelqu'un émettait des critiques, je me souviens d'une conversation avec quelqu'un qui remettait, disons, en doute l'utilité et l'efficacité du passeport vaccinal, mais que tout de suite allait dire non, mais je le sais que la Terre est ronde, je suis pas conspirationniste. Donc c'est comme si justement, c'est intéressant d'aller voir une vision plus globale en ayant les croyances ou l'adhésion à justement certains énoncés comme ça.
Oui, tout à fait. Puis bon, on peut être complotiste sans penser nécessairement que la Terre est ronde ou sans croire aux chemtrails, qui sont souvent là, les clichés conspirationnistes. Ouais. Donc, on peut avoir quand même cette tendance-là à croire que le gouvernement nous contrôle puis nous cache des choses. Mais à l'opposé aussi, il y a tout à fait ça, là, des critiques qui sont légitimes puis qui passent parfois pour conspirationnistes. Dans le livre, je raconte une histoire où quelqu'un me disait « Ben moi, je suis complotiste, donc c'est souci de moi que tu parles quand tu écris le livre. » Je disais à cette personne-là « Ben OK, explique-moi en quoi tu te juges complotiste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Ben moi, je pense que la pandémie, on a exagéré certaines mesures sanitaires, puis il y a des études qui ont été faites trop vite puis qui n'étaient pas fiables. Regarde, The Lancet a retiré des travaux, donc c'était des travaux qui étaient mal faits, puis on essayait de nous induire en erreur. J'ai dit, mais ça, t'as raison. On est au courant qu'il y a des travaux qui ont été faits trop vite ou peut-être avec des mauvais échantillons. Justement, la revue les a retirés puis l'a reconnu. Ça aide pas la confiance, mais au moins, ça a été retiré. Je dis, est-ce que t'as d'autres raisons de te considérer complotiste? Et finalement, la personne, en y parlant, je dis, mais t'es pas complotiste. T'as peut-être vu des trucs qui t'amènent à être critique. Tu te poses des questions sur les mesures sanitaires. Mais même cette personne elle-même, elle se pensait complotiste, alors que selon notre définition, elle n'était pas nécessairement, là, elle était juste inquiète de certaines situations. Donc, il y a vraiment une confusion à certains moments.
Oui, tout à fait. Puis quand vous parliez d'échantillonnage, une des questions qui me venait en tête en préparant l'entrevue sur justement la façon d'étudier le phénomène de la pensée conspirationniste et du complotisme, c'est ça doit être difficile. Mais je suis curieuse, en fait, des personnes qui sont peut-être des adhérents plus convaincus que vous disiez. Est-ce que ces gens-là sont faciles à rejoindre et vont-ils être enclins à répondre à des sondages, des enquêtes populationnelles, justement, s'ils ont une méfiance envers les institutions? Donc ça, je ne sais pas si vous savez justement, ou du moins dans les échantillons que vous avez recueillis, si c'était peut-être des gens qui étaient plus difficiles à rejoindre. Bref, c'est une question que je me demandais qu'une personne qui a une crainte justement des universités, des institutions, du gouvernement, etc., va peut-être pas vouloir aller remplir un sondage par rapport à ça.
C'est certain que les panels qu'on a fait avec les IRFC, puis notamment le sondage qui est dans le rapport qu'on a publié en mai dernier, on les a fait avec la firme Léger, donc en collaboration avec Léger. Ils ont un panel assez représentatif, donc large, là, de différentes populations. On avait notamment beaucoup de jeunes. Donc, je pense que beaucoup de gens participent juste parce que, bon, justement, c'est Léger, c'est peut-être pas associé au gouvernement, aux institutions scientifiques. Il y a aussi, bon, la motivation à vouloir donner leur opinion. Donc, je crois que ça donne un point de vue, mais c'est certain que ça le donne pas de tout le monde. Ça peut parfois être un biais. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas répondre à des études. Je l'ai dans c'est un problème qu'en tant que chercheur, on a dans plein de domaines. En ce moment, j'ai une recherche avec les médias autochtones. Il y a beaucoup de gens des communautés qui ne veulent pas nous parler, puis ils ont des raisons qui leur sont bien propres et légitimes, mais ils ont une méfiance envers la recherche, envers le bien fondé de la recherche, comment on va percevoir leurs propos. La recherche est financée par le ministère. Il y a certaines communautés qui pensent que le ministère n'est pas objectif à leur endroit. Donc, c'est un problème qu'on a partout en recherche. Mais c'est certain que c'est pour ça que nous, on essaie de multiplier nos façons d'aborder la question conspirationniste. Donc, on a, comme je le disais, observé beaucoup ce qui se passait sur les réseaux sociaux numériques, à la fois le discours des leaders, mais comment il était partagé, les commentaires, puis on est allé sur le plus de plateformes possible. C'est certain qu'un autre défi des chercheurs, c'est qu'on peut travailler juste avec les données ouvertes. Les comités d'éthique sont très sensibles à aller sur des sites privés, des forums privés, c'est très difficile. Donc, nous, on a travaillé avec des données qui étaient accessibles publiquement. Mais ce discours-là n'est peut-être pas tout à fait le même quand on est dans des cercles privés qui se censurent peut-être moins puis qui se laissent plus aller et on n'a pas toujours ce regard-là. Comme dans le livre, on a essayé d'avoir d'autres aussi aspects. Donc, on a interrogé beaucoup de gens qui vivent avec ces problématiques-là, qui ont des proches complotistes. En ce moment, j'ai d'autres projets de recherche, évidemment, là-dessus. Puis on travaille avec aussi d'autres méthodologies. Comme là, on a fait beaucoup d'entrevues avec des jeunes pour comprendre leur rapport au complotisme. Un de nos projets, en ce moment, on a interrogé plus qu'une soixantaine de jeunes dans les cégeps pour comprendre leur rapport à la désinformation puis au complot. Donc, je pense qu'en multipliant les méthodes puis les perspectives, c'est un bon moyen d'aller mieux nuancer, mieux comprendre un phénomène. Mais il y a toujours des questionnements comme en tant qu'équipe de recherche. Nous, on a souvent été interpellés par les leaders, notamment de ces mouvements-là qui voulaient nous parler ou faire des entrevues. Puis c'est un peu une question, est-ce qu'on devrait leur parler ou pas à ces gens-là? Parce que, bon, en même temps, on sait qu'ils ont un intérêt, ils essaient de contrôler le message. Parfois, ils se filment quand ils font des entrevues. Moi, j'ai plus d'ouverture à aller voir des adhérents que peut-être des leaders. Mais en même temps, c'est important d'avoir leur discours puis de les comprendre, de leur parler. Donc, la ligne est toujours... C'est pas toujours facile de décider comment on construit une recherche, finalement.
Oui, non, ça doit vraiment être tout un défi pour ça. Puis justement, la question de responsabilité sociale, de est-ce qu'on donne ou non une parole ou une plateforme à des leaders ou des choses comme ça. Puis, à la lumière des données que vous avez récoltées avec ces projets-là, est-ce qu'il y a certaines conceptions erronées qu'on pourrait avoir du complotisme? Puis encore une fois, je pense que dans les dernières années, il y en a beaucoup qui ont circulé. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans vos données qui sont ressorties de peut-être de préjugés ou de croyances qu'on avait initialement sur le portrait des personnes adhérentes au complotisme qui s'avère fausse, en fait?
Mais c'est certain qu'on a beaucoup tendance à essayer de qualifier les adhérents par des données sociodémographiques. Puis ça, il faut toujours être très prudent avec ça. Et même dans les médias, parfois, on a manqué de prudence. Parfois, on a été prudent, mais ça n'a pas nécessairement clairement ressorti dans certains articles de chroniqueurs ou de journalistes, peu importe. Mais c'est que la recherche n'entend pas nécessairement sur comment les facteurs sociodémographiques peuvent influencer l'adhésion au conspirationnisme. En général, ce que nos données, donc pour les sondages et les travaux qu'on a menés de notre côté avec la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent, ce qu'on voit vraiment, c'est que de base, c'est vraiment pas les facteurs sociodémographiques qui sont les plus déterminants là, pour l'adhésion au complotisme. C'est beaucoup plus des facteurs autres. L'anxiété, la dépression, le stress à des moments spécifiques de notre vie qui vont nous rendre vulnérables, nous porter à chercher des réponses alternatives, nous pousser à adhérer. Le sentiment de cohérence, notamment pendant la pandémie, des gens pour qui tout ça faisait pas de sens, qui n'étaient pas capables de trouver de solution puis de positif dans, disons, dans l'altérité, dans le moment que je vais être confinée chez nous, est-ce que je peux trouver des nouveaux passe-temps, m'occuper autrement. Donc, ceux qui avaient un faible sentiment de cohérence, plus à risque d'adhérer. Ceux aussi qui ont moins de liens, donc qui sont plus isolés, ils ont moins de liens familiaux, amicaux, donc moins de cercle social qui peut agir un peu comme un tampon, un facteur de protection. Ça aussi, c'est vraiment important. Et c'est des facteurs qu'on oublie un peu parfois pour dire, on a entendu parfois, c'est des gars qui sont plus pauvres, moins éduqués, qui vont adhérer. Pas tout à fait. Certains de nos données nous montrent souvent que ceux qui adhèrent un peu plus fortement, on voit un peu plus d'hommes, surtout ceux qui adhèrent très fortement puis qui ont tendance à percevoir une certaine forme de violence comme légitime pour se faire entendre, pour faire entendre leurs croyances puis dénoncer ce qu'ils voient comme un abus du gouvernement puis une dictature. On voit plus d'hommes, ce qui, en général, est le cas aussi dans les polarisations plus extrêmes puis les mouvements beaucoup plus radicaux mais violents. On voit plus d'hommes aussi, autant dans l'extrême droite ou ailleurs dans ces mouvements-là. Donc, quand on passe dans le côté plus violence, mais il faut être très prudent parce que nos données nous le montrent, puis on le voit aussi même avec les leaders. Il y a beaucoup de femmes qui sont leaders dans ces mouvements-là en ce moment. La porte de la médecine alternative, de la santé naturelle, méfiance aussi envers les vaccins, donc mouvance un peu anti-vax, rejoint beaucoup de femmes, beaucoup de mères de famille qui ont à décider, donc ça a été une porte d'entrée pour beaucoup. Donc c'est d'autres types peut-être de complots ou de thèses complotistes, mais il y a beaucoup de femmes qui adhèrent, et plus qu'on adhère, plus qu'on se met à croire à d'autres complots. C'est assez fascinant de voir certaines leaders féminines qui ont un discours qui a tranquillement muté de soignons-nous par des trucs naturels, par des bonnes pensées, par de la vitamine D, du soleil, etc., etc., méfions-nous de la médecine traditionnelle, et qui aujourd'hui ont un discours pro-Trump, pro-QAnon, parfois assez d'extrême droite et anti-woke, qui est comme la cible en ce moment, ou anti-drag queen et tout ça, parce que c'est comme des nouvelles cibles du complotisme. Mais il y a une évolution là-dedans. Et, bon, c'est une longue réponse pour dire que finalement, on voit des femmes, on voit des hommes, on voit des gens qui ont deux doctorats qui sont des leaders conspirationnistes. Oui, il y a plus de gens qui sont un petit peu moins éduqués, mais il y a de tout dans ces mouvements-là. Je pense que c'est ça la plus grande mécompréhension des gens, d'avoir tendance à penser que ça arrive qu'aux autres, puis que c'est des populations marginalisées.
Oui, puis il me semble dans le rapport en question, la statistique m'avait frappée, mais c'est, je crois, un tiers soit des adhérents ou des leaders qui sont détenteurs d'un diplôme universitaire. Donc, c'est quand même, ça vient un peu justement détruire, mais pas détruire, mais venir enlever un peu du poids la conception que c'est juste des personnes qui n'ont pas d'éducation qui peuvent tomber dans le complotisme. Puis de ce que j'entends beaucoup de ce que vous dites aussi, ça semble beaucoup être davantage des facteurs psychosociaux qui semblent être déterminants à si une personne va adhérer plutôt que des variables sociodémographiques.
Oui, des facteurs psychosociaux, des facteurs liés à son quotidien, à sa vie, à ce à quoi va être exposé aussi comme information, parce que forcément, je ne veux pas mettre tout sur le dos des réseaux sociaux numériques, mais les choix aussi d'information, de choix de source d'information sont déterminants. On voit que les gens qui adhèrent plus sont plus présents sur les réseaux sociaux, peut-être moins critiques envers l'information qui est là, suivent moins les médias traditionnels et encore moins les sites officiels, parce que forcément, si je me méfie, je ne serais peut-être pas sur le site de Santé Canada ou de l'OMS pendant une pandémie. Mais donc, c'est vraiment une multiplication de facteurs qui ne sont pas que sociodémographiques.
Puis quand vous parliez justement de qu'on aurait, les hommes semblent peut-être être un peu plus représentés pour les adhérents plus convaincus, mais qu'il y a quand même beaucoup de femmes parmi les adhérentes et les leaders, puis que c'est des femmes qui étaient peut-être justement plus dans les médecines alternatives, etc. C'est là où je crois qu'il avait été mentionné que c'est un peu comme si des fois l'extrême gauche venait rejoindre l'extrême droite. Puis je pense que le terme, c'est conspiritualité qui est le terme qui a été utilisé justement pour désigner ce phénomène-là, où c'est comme si deux extrêmes pour ça se sont rejoints quelque part là-dedans. Puis, comme vous dites, que ça, des personnes qui, justement, là, étaient très bon dans les trucs naturels, etc., se sont retrouvées à être pro-Trump, des adhérents à QAnon et tout ça. Donc, on a vu cette espèce d'amalgame-là aussi qui doit être assez complexe à comprendre et étudier également.
Oui, bien, au début de la pandémie, on avait essayé d'identifier des leaders plus, disons, d'extrême gauche, d'extrême droite, pour voir un peu l'évolution des deux dans leurs croyances aux thèses conspirationnistes et leur diffusion. Puis on a vu que dans le cas spécifique de la pandémie, notamment, il y a eu très peu de leaders là, liés à l'extrême gauche conspirationniste. En tout cas, on n'en avait même pas, en fait. Au niveau de l'extrême gauche, ça a plutôt été le contraire. C'est des gens qui étaient très à gauche, ont beaucoup approprié le mouvement anti-conspirationniste, puis un mouvement de dénonciation des thèses conspirationnistes. Et un mouvement qui, parfois, essaie de justement même tourner un peu au ridicule certains leaders pour favoriser, disons, de méfiance, avec du succès parfois. Des fois, on peut critiquer un peu leur méthode. D'autres ont été assez, assez légitimes dans leur méthode. Mais il y a eu très peu de leaders de l'extrême gauche. J'en ai pas en tête là, pendant la pandémie. Bon, sur d'autres types de conspirations, tout à fait, là, il y a des leaders d'extrême gauche qui donc croient à certaines thèses conspirationnistes, peut-être plus capitalistes ou sur le gouvernement, tout ça. Mais pendant la pandémie, nous, les grands types de leaders qu'on voyait, c'est des gens qui étaient liés à l'extrême droite, d'autres issus des mouvements libertariens, donc anti-gouvernementales, citoyens souverains, tout ça. Donc, des gens qui ne reconnaissent pas justement le système démocratique, le système dans lequel on vit, la légitimité du gouvernement. On a vu un petit groupe de survivalistes aussi qui avait ce discours-là, donc des gens qui pensent que la fin du monde approche puis qu'il faut s'autonomiser, tout ça. Et une très grande partie des gens qui sont plus de la frange de mouvement médecine alternative, santé naturelle, certains sont plus à gauche dans leurs croyances politiques, d'autres moins, mais en général, oui, c'est des mouvements qu'on associe plus à une certaine forme de gauche. Ouais. Et donc, c'était surprenant. Entre autres, au début de la pandémie, on voyait notamment des figures là, en Allemagne qui étaient liées à la gauche au départ, ou même extrême-gauche, vegan, très anti-médecine, tout ça qui marchait maintenant avec des figures néo-nazies pour contester la gestion de la pandémie. Ça semble vraiment contre la logique, mais c'est l'évolution de cette connaissance-là. Et oui, cette tendance-là qu'on a vue à certains mouvements, disons, de médecine alternative, mais pendant la pandémie, ça s'est élargi aussi. On voit beaucoup de gens, il faut vraiment jamais généraliser, hein, parce que moi-même, je suis une adepte de yoga et tout ça, et je suis loin d'être complotiste, mais il y a beaucoup de gens issus du yoga, de la méditation, de tous ces mouvements spirituels-là, puis même dans nos recherches, ce qu'on voit, c'est beaucoup de franges religieuses aussi, tout court, là, donc de différentes religions qui ont fait ce passage-là. Donc, ce qu'on appelait la conspiritualité, c'est des gens issus de ces mouvements de santé naturelle, bien-être, méditation, yoga, qui commençaient par une porte, finalement, souvent plus, justement, de thèse sur la médecine, la science, mais tombaient dans le conspirationnisme. Puis, il y a des collègues aussi qui parlent de pastel QAnon, donc tous ceux qui croient au mouvement QAnon, c'est-à-dire qui pensent qu'il y a une clique pédosataniste. Au départ, c'était concentré sur les États-Unis, ce mouvement-là, mais maintenant, on le voit un peu partout, là, l'idée qu'il y aurait une clique pédosataniste qui contrôlerait le monde, puis qui enlèverait des enfants, notamment pour boire leur adénochrome, se rajeunir, etc. Donc, c'est un peu complexe, l'idée derrière ça, mais ce mouvement-là, QAnon, s'est répandu un peu partout dans le monde, puis notamment, ce qu'on appelait le pastel QAnon, c'est beaucoup d'influenceurs ou d'influenceuses liées à la médecine naturelle, au bien-être, au yoga, qui sont tombés dans ça, d'abord, avec la volonté de défendre des enfants ou ce qu'on pourrait penser quelque chose de naturel. Personne ne voudrait qu'on fasse de mal à des enfants. Mais tranquillement, on tombe dans des croyances un peu plus extrêmes. Puis oui, ils s'en vont vers la droite, mais la porte d'entrée a été
la gauche,
ce bien-être-là. Et donc, ça, même les pastels QAnon, ben, c'est des vidéos, des visuels très, très léchés, très, très dans le même genre que médecine naturelle, mais qui dénoncent finalement des complots qu'on peut qualifier aux idéologies d'extrême droite, finalement.
Ouais, donc c'est comme une autre façon de venir rejoindre un autre pan de la population. Donc c'est une porte d'entrée différente, mais qui amène un peu au même résultat au final. Puis j'aimerais revenir, vous avez parlé que vous avez un projet en ce moment, vous avez fait des entrevues avec des jeunes. Puis quand je pense, on dirait à une des questions que j'ai toujours en tête, c'est bon, comment on peut prévenir ces dérives-là? Puis j'ai l'impression que plus on intervient tôt, plus ça a un potentiel de prévention, du moins je l'espère. Donc avec ces jeunes-là, qu'est-ce que vous avez fait? Quel genre d'informations vous avez été chercher au cours de ces entrevues?
Oui, mais c'est certain que moi aussi, c'est une des thèses, là, on veut maintenant travailler sur des solutions, donc il faut mettre en place des solutions, beaucoup de solutions. Je pense que c'est de voir comment on peut redonner confiance dans le politique, dans le système démocratique, dans le scientifique, dans le médiatique. Et donc, en ce moment, bien, différentes recherches qu'on mène là, qui peuvent être liées à ça. Donc, on a des projets avec des initiatives d'éducation aux médias ou des initiatives d'information pour les jeunes qu'on teste, pour voir comment ces initiatives-là peuvent avoir un effet chez les jeunes donc de protection à court, moyen, long terme. Donc, avec des collègues de l'Université de Sherbrooke et puis de l'UQTR, notamment, on a un projet sur tester les formations de l'agence Science 13. Donc, où on va dans les écoles, puis on essaie de voir là, à court, moyen, long terme comment les jeunes ont suivi ces formations-là sur la vérification des sources d'informations pour démêler le vrai du faux, puis qu'est-ce que ça leur donne comme outil court, moyen, long terme, parce qu'il faut voir aussi c'est quelle formation fonctionne, mais pas juste après je l'ai suivi, mais sur le long terme pour me donner des outils de protection puis m'aider à mieux comprendre. On a le même projet avec les As de l'Info où on essaie de voir avec eux, ils font de l'information pour les très jeunes. Et donc, on essaie de voir avec eux différents types d'articles qu'ils vont partager en ligne. Donc, les As de l'Info, c'est l'initiative commune des coops de l'information puis de Télé-Québec, où on fait de l'information pour les très jeunes. Et là, on veut voir quand les jeunes lisent cette information-là, qu'est-ce qu'ils en comprennent? Est-ce qu'ils en parlent avec leur famille? Donc, est-ce que ça peut avoir un effet qui va percoler dans les familles, à l'école, quand j'ai lu de l'information qui était fiable sur un sujet puis qui contrait de la désinformation? Et un autre projet qu'on mène en ce moment, c'est dans les cégeps. Comme je le disais, là, on travaille avec un peu plus vieux. On essaie de comprendre en quoi ils croient, comment ils s'informent, c'est quoi leur rapport au conspirationnisme. Donc, on est plus dans une approche compréhensive pour le moment. Mais c'est certain que ça, c'est aussi une recherche que je mène avec des collègues là, de l'UQAM, notamment, du cégep aussi, Édouard Montpetit. Et Ce qu'on voit, c'est vraiment une espèce de pensée qui est à la fois bienveillante de la part des jeunes, où on essaie de légitimer toutes les croyances se valent. Donc, il y a vraiment ce discours-là chez les jeunes où on dit, ben, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Donc, s'ils croient au complot, c'est pas grave. Ils ont le droit de croire à ça. Moi, j'ai le droit de croire à autre chose. Donc, il y a une espèce de pensée où c'est correct, puis tu sais, on veut bien faire, on veut être ouvert puis accueillant dans notre façon de voir les choses. Mais en même temps, c'est un peu inquiétant parce que non, tout se vaut pas. Il y a des trucs qui sont faux. On peut pas dire, ben c'est correct de croire que c'est vrai, même si c'est faux, parce que chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Donc, il va vraiment falloir peut-être voir qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là pour dire, ben oui, il faut être bienveillant à l'égard des autres, mais non, en même temps, toute l'information ne se vaut pas. Je pense que ça sera peut-être un pas à réfléchir pour l'avenir. Mais là, pour l'instant, on est vraiment plus là au niveau des jeunes cégeps dans une démarche très compréhensive où on essaie de voir un peu comment se construisent leurs croyances.
Mm-hmm. Ah, mais c'est vraiment intéressant cet aspect-là bienveillant de la chose. Puis j'ai l'impression que quand on parle, puis c'est quelque chose aussi qui est assez marquant dans votre livre, que des fois, le réflexe que les gens vont avoir, bon, quand on entend un proche nous parler de propos qui peuvent s'approcher de la pensée conspirationniste, on va être sur la défensive, on va tenter de corriger le tir, immédiatement tomber justement dans un dialogue qui est plus défensif et qui finit par davantage repousser la personne. Donc, cet aspect bienveillant que les jeunes ont là est peut-être intéressant de ce côté-là, mais d'un autre côté, comme vous dites, c'est qu'effectivement, toutes les théories ne se valent pas, puis y adhérer à un certain point peut avoir des conséquences qui sont graves. Là. Donc, on dirait qu'il y a comme un, je sais pas, un juste milieu à aller chercher, mais je trouve ça, on dirait que je ne me serais pas attendu de ça de la part des jeunes, mais c'est malgré tout bien, je trouve que ce soit... Ça part de la bienveillance plutôt que d'être peut-être pas assez critique ou d'être très défensif pour ce genre de pensée-là.
Tout à fait, vous avez raison. C'est vraiment une bonne porte pour en tout cas pas fermer le dialogue, puis pas que des gens qui ont des croyances plus radicales s'isolent quand on leur dit « voyons, ce que tu crois est complètement farfelu, puis je suis même pas prête à t'écouter » ou qu'on se met tout de suite en conflit avec ces personnes-là, bien, ils vont se fermer puis ils risquent de... plus vouloir nous parler, donc de voir des jeunes qui sont ouverts puis qui ne fermeront pas la porte, c'est sûr que c'est un côté très positif. Après ça, c'est de voir comment ce côté positif-là ne doit pas verser dans le contraire ou eux-mêmes vont basculer dans ces croyances-là ou dans l'idée que tout se vaut. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais en effet, ça a des belles qualités d'être ouvert puis de ne pas être tout de suite dans la confrontation puis dans la fermeture, ce que visiblement les jeunes ont l'air... beaucoup plus ouvert que certaines personnes là, dans des catégories d'âge un peu plus élevées.
Mm-hmm. Puis en ce qui a trait à leurs sources d'informations, où est-ce qu'ils vont se renseigner? Je serais portée à croire que les réseaux sociaux sont peut-être plus leurs sources d'informations que peut-être les médias traditionnels que les adultes un peu plus âgés, disons. Puis est-ce que c'est le cas? Quelles sont leurs principales sources d'informations pour, disons justement, la pandémie, des enjeux de santé, l'actualité?
Mais c'est assez particulier parce que, disons, ils savent qu'en général, les médias traditionnels sont plus fiables. Donc, ça ressort beaucoup de leur discours. Si je veux vraiment être sûre ou validée, je vais aller vers les médias traditionnels. Après ça, parfois, c'est comment ils les consultent qui est discutable. Des fois, quand je leur posais des questions ou des collègues sur comment tu vas voir, ben c'est les grands titres qui apparaissent sur Facebook. Oui, mais tu n'as pas été fouillé pour bien comprendre l'information, tu as juste vu le titre. Mm-hmm. Il y a aussi, bon, plusieurs nous parlaient de la fatigue de l'écran. Donc oui, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, mais pendant la pandémie, ils étaient sur les réseaux sociaux pour les études parce que là, l'école était en ligne, était présent pour se divertir, il n'y avait plus de sorties culturelles, il n'y avait plus de loisirs en groupe. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On était sur Netflix, on était sur, si on voulait échanger avec nos amis, notre famille, sur des applications de messagerie instantanée. Et donc, cette fatigue-là de l'écran fait en sorte que certains ont juste comme arrêté de s'informer sur la pandémie. Et là, quand ils voulaient s'informer, ben ils demandaient à leurs parents ou à quelqu'un de confiance qu'est-ce qu'ils en pensaient puis qu'est-ce qu'ils devaient savoir. Donc, il y a eu une grande influence aussi des réseaux pour s'informer parce qu'il y avait une fatigue d'aller chercher l'information puis d'être en ligne et une fatigue pandémique que beaucoup de gens ont rencontré où on n'en pouvait plus d'entendre parler de la pandémie aussi. Donc, ça a été un autre facteur. Mais oui, les réseaux sociaux étaient très présents chez les jeunes puis peuvent parfois être une source de désinformation, mais il y a quand même une certaine critique qui s'exprime assez fortement là, envers l'information sur ces réseaux-là.
Mm-hmm. Ah, mais c'est intéressant comme portrait des jeunes. Encore une fois, l'aspect de bienveillance et que malgré tout le fait qu'ils, même s'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, que les médias traditionnels pour eux demeurent encore une source fiable, je trouve que c'est intéressant comme pensée de leur part. Puis, en termes de prévention, justement, c'est intéressant de savoir, bon, vous avez parlé de différents programmes, les formations de l'agence Science Presse, pardon, les As de l'info qui peuvent être des portes d'entrée intéressantes pour les jeunes. Mais de façon générale, disons, au cours du cycle de la vie, si on a un proche qui semble dériver tranquillement par là, est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être mises en place par l'entourage, par les amis? Je pense que c'est peut-être une question qui est beaucoup ressortie dans les dernières années, justement, si on sent quelqu'un qui dérive puis on veut l'attraper avant qu'il tombe dans le rabbit hole. J'ai le trou du lapin comme le
trou du lapin, oui.
Vous avez parlé qui est une image assez prenante pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait au niveau des actions préventives qui peuvent être mises en place?
Mais en fait, c'est sûr que c'est difficile, c'est du cas par cas aussi beaucoup, donc ça dépend comment la personne adhère. Parfois, c'est juste un moment de vie, donc de juste montrer qu'on est présent, qu'on est là pour l'écouter, de pas tomber dans des confrontations, mais juste garder un lien, donc dire à la personne, mais écoute, ce sujet-là, je suis peut-être moins à l'aise de l'aborder avec toi, on n'a pas la même vision des choses, mais on peut parler d'autres choses, faisons des activités. Ça va déjà faire en sorte que la personne se sent entourée, puis souvent l'isolement est un facteur de basculement plus intense là, dans des croyances radicales, quelles qu'elles soient. Donc, de sentir qu'elle a un cercle de protection, c'est vraiment important, même si c'est pas toujours facile, là, puis il faut se prémunir là-dedans. Si on devient inconfortable, on n'est pas obligé non plus en tout temps là, de discuter avec la personne, mais garder un lien, c'est la base. Des fois, quand on est vraiment en confiance avec cette personne-là, pas attendre d'un party de famille où tout le monde est là ou un souper qu'on est 25 pour la confronter, c'est pas une bonne idée. Même juste d'essayer de confronter quelqu'un qui a des croyances conspirationnistes, c'est difficile parce que souvent, elle va avoir pris plein d'informations. C'est des gens qui s'informent vraiment beaucoup. Donc, ils vont avoir toutes sorte de données, toutes sortes de chiffres qui vont nous marteler un après l'autre. Ça devient très difficile d'aller confronter ça puis d'aller rectifier chaque donnée. Puis, c'est pas une bonne idée. Donc, souvent, c'est par la bande des croyances, de l'adhésion, que ça peut être une bonne façon d'aller rejoindre la personne. On va dire, qu'est-ce qui t'amène à croire ça? Pourquoi tu crois telle personne ou telle source, puis tu ne crois pas telle autre? Donc, juste de l'emmener. À quel moment tu as commencé à te méfier comme ça ou à croire ça? C'est elle-même qui va faire son cheminement. Ça peut être une bonne porte. Mais bon, ultimement, à la fois pour les proches, si moi, je suis pas à l'aise avec ce qui se passe, j'aimerais avoir des ressources, puis je sais pas vers qui me tourner pour avoir ces ressources-là, moi, pour aider la personne, pour discuter avec elle, il y a des organismes qui existent. Notamment le Centre de prévention de la radicalisation dans la violence, qui est à Montréal. Le Centre offre des groupes de discussion pour les familles, pour les proches, pour les amis en ligne. Donc, des gens peuvent aller participer à ça. Puis juste des fois, de sentir qu'il y a d'autres gens qui vivent la même situation, de voir comment eux s'en sont sortis, ça aide. Donc, le Centre de prévention est une bonne ressource pour les proches, les familles. Il y a aussi InfoSect, qui a été beaucoup sollicité pendant la pandémie puis qui donne aussi ce genre de ressources-là pour aider quand un proche est conspirationniste. Puis après, ça dépend du niveau aussi d'adhésion de la personne. Donc, nous, on travaille beaucoup, entre autres, avec la CHAC, les équipes de polarisation sociale, qui sont des psychologues sur le terrain qui travaillent vraiment là, un à un avec des gens qui adhèrent quand on est dans un niveau un peu plus extrême, ce que fait aussi le Centre canadien de prévention là, de la radicalisation, dont Raïda Hassan, de nos co-titulaires, est membre. Alors, il y a différentes ressources qui existent, mais ça me réjouit beaucoup de voir, entre autres, on a parlé au Centre de prévention de la radicalisation dans la violence dernièrement, puis il disait que plusieurs personnes les ont appelés après avoir lu notre livre. Et ça, on était super contents de ça parce qu'on se disait, au moins, si on a pu être utile à des gens qui ne savaient pas qu'il y a des ressources qui existent puis qui ont trouvé ces ressources-là grâce au livre, c'est déjà là un bon pas dans la bonne direction.
Ah oui, non, c'est super encourageant. Puis un passage aussi dans le livre, quand justement vous parliez de l'importance de maintenir un lien, puis qu'à un moment donné, il ne faut pas se compromettre, nous non plus, ça peut être très énergivore, ça peut devenir très difficile, puis où est-ce que là, on peut avoir tendance peut-être à, c'est ça, perdre patience, puis de redevenir plus défensif, ce qui finit juste par plus repousser la personne, mais de garder un lien, que ce soit de parler de pêche, de jardinage ou peu importe, de petits sujets comme ça. Puis des fois, il faut qu'il y ait un événement, je pense que vous parliez dans la vie de la personne, un divorce, la personne perd son emploi, qu'il y a vraiment que la personne elle-même vive un choc de quelque chose pour que là, tout d'un coup, elle-même remette en question la pensée conspirationniste dans laquelle elle est tombée. Donc, ça doit être difficile aussi de devoir parfois peut-être un peu lâcher prise sur essayer de convaincre la personne de cesser d'adhérer à ces idées-là, mais que c'est ça. Faut quand même, si on est capable, garder un lien, puis que des fois, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de la personne qui ramène les pendules à l'heure, si on veut.
Oui, oui, parfois un choc comme ça, ou parfois la personne se rend compte elle-même qu'elle est en train de s'isoler, ou que tout ça devient trop lourd pour elle, de toujours se méfier, de toujours avoir l'impression qu'on nous cache des choses, de toujours être fâchée contre ce qui nous entoure, ça devient lourd. Donc, il y a des gens qui, c'est cette lourdeur-là qui va les inciter à débarquer de toutes ces croyances-là. Parfois, il faut juste laisser le temps faire les choses. Puis c'est vrai que c'est difficile, on le disait tout à l'heure. Tant mieux pour les jeunes si on a cette ouverture-là au fait que, ben, on a le droit d'avoir des croyances différentes, mais on n'est pas toujours à l'aise avec le fait qu'on partage pas la même vision des choses. Donc, c'est sûr que parfois, il faut se piler un peu sur soi pour dire je laisse ça de côté, mais regarde, on peut quand même avoir des loisirs en commun. On est les deux passionnés de telle activité de plein air. Ben, rejoignons-nous là-dedans. Puis c'est la même chose quand nous, on va dans les milieux professionnels. On dit aux gens, mais vous avez une cause commune, là. Dans le fond, vous travaillez pour le bien-être de cette organisation-là, pour le bien-être de la société en faisant tel projet, mais concentrez-vous sur ce qui vous unit, non pas sur ce qui vous divise. Tout ce qu'on veut, globalement, c'est faire arriver l'organisation à ses fins, donc concentrons-nous là-dessus. Dans le fond, on a plein de trucs qui nous unissent et qui nous ressemblent, des buts communs, donc c'est important de garder ça en tête, même si c'est pas toujours facile.
Oui, tout à fait. Puis, on parle beaucoup, bon, des interventions qui peuvent être faites au niveau de l'individu, entre les individus, par le biais de l'éducation, etc. Mais en tout début d'entrevue, on parlait beaucoup des réseaux sociaux, des médias traditionnels. Et est-ce que les médias traditionnels et les réseaux contribuent justement à peut-être cette radicalisation-là ou à pousser peut-être les gens vers une pente un peu plus glissante. Donc, quel est leur rôle là-dedans? Et commençons avec cette question-là, puis après, j'allais demander, bon, quelles actions concrètes peuvent être mises en place au niveau de ces grandes plateformes d'information-là elles-mêmes pour prévenir la dérive qui peut en suivre?
Oui, ben, je pense qu'il faut le prendre en deux parties, là, les médias traditionnels, puis les médias sociaux, les réseaux sociaux numériques, là, disons. C'est deux entités assez différentes, puis je pense qu'ils ne sont pas du tout dans le même genre d'enjeu, même si des fois on mélange les deux. On a tendance à dire que les médias traditionnels font de la désinformation ou des fausses nouvelles, alors que pas du tout, là. Tu sais, la désinformation, les fausses nouvelles, ça se trouve en ligne ou ça se trouve aussi hors ligne, mais c'est pas les médias traditionnels qui font des fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, c'est des gens qui ont des intérêts cachés, qu'ils soient politiques, qu'ils soient idéologiques, économiques, qui font à croire qu'on est devant du contenu d'information, mais on est dans du contenu qui sert à plein d'autres fins puis qui fondamentalement faux. Les médias traditionnels, à la base, ce qu'ils veulent, eux, c'est aider la société à se faire une idée sur les enjeux pour se positionner politiquement, démocratiquement, comprendre finalement ce qui se passe, dénoncer certaines injustices. Et je pense que les journalistes se voient beaucoup comme ça, comme des gens qui vont dénoncer. Et parfois, ben, il y a des erreurs. Nous, dans un autre projet de recherche qu'on a fait, on interrogeait des journalistes sur leur rôle pendant la pandémie puis la modification des pratiques journalistiques pendant la pandémie. Et plusieurs journalistes étaient conscients à certains moments de ne pas avoir été peut-être assez critiques envers les décisions du gouvernement. Ça n'a pas aidé la confiance parce que les gens veulent que les médias posent des questions, soient les chiens de garde un peu de la démocratie. Et c'est certain que pour un journaliste, c'est difficile. On était dans une situation de pandémie qui est assez unique. On va sûrement en avoir d'autres, mais on espère pas bientôt. Et là, on est devant des mesures sanitaires qu'on se dit, des journalistes disent, si je commence à dénoncer, est-ce que cette mesure-là est légitime? Pourquoi le gouvernement l'a pris? Est-ce que le gouvernement gère bien? Ben, je crée de la méfiance. Est-ce que je contribue à aggraver la situation, à propager le virus? Donc, il y a eu un certain moment où les journalistes ont été un peu plus, ils ont juste des courroies de transmission des mesures sanitaires parce que leur rôle était à ce moment-là, plus un rôle de santé publique puis de bien public qu'un rôle de média d'information traditionnel au sens où on l'entend. Et après coup, ben il y a des journalistes qui se posent des questions. Est-ce qu'on a justement été trop cette courroie de transmission-là puis ça a miné la confiance? Donc, je pense que dans les médias traditionnels, il y a beaucoup cette réflexion-là à y avoir sur à quel point on doit être critique ou pas. Et leur rôle, je pense, pour redonner confiance puis faire face à ce qui se passe, à l'adhésion aux conspirationnistes, c'est trouver des moyens justement de mieux informer sur l'éducation aux médias, sur la façon de travailler des journalistes. Va falloir réfléchir à court, moyen, long terme aussi au métier. La transparence de comment les pratiques journalistiques s'opèrent, comment on adhère à des codes de déontologie, mais aussi la reddition de comptes. En ce moment, les médias sont peu réglementés, peu légiférés. Bon, il y a des lois sur donner le CRTC, donner des licences, tout ça, mais on a un conseil de presse qui donne des sanctions morales. Donc, il va juste dire s'il y a une faute ou pas aux médias. Mais quand t'as pas de morale, ben la sanction morale fait pas grand-chose. Puis il y a beaucoup de médias en ce moment qui adhèrent pas au conseil de presse, qui reconnaissent pas son rôle. Le conseil de presse a très peu d'argent, donc peu de moyens non plus pour traiter de dossiers. Donc, il traite juste une partie des dossiers qu'il reçoit. Il faut peut-être penser, si on veut que les gens aient plus confiance, est-ce qu'on devrait avoir une structure plus rigoureuse de régulation des médias ou peut-être un autre organisme à côté qui observe ce qui se passe puis qui met le doigt sur des problèmes de fonctionnement des médias puis ce qui se passe en ce moment. on doit aussi penser, là, en ce moment, tout le monde peut être journaliste. Il n'y a pas un ordre professionnel des journalistes. Ouais, ça a été discuté longtemps. Ça fait pas consensus dans la profession journalistique. Comment on administrerait l'ordre, comment on la ferait fonctionner, tout ça pour plein de raisons. Mais c'est certain que tant qu'on reste dans un flou de tout le monde peut être journaliste, mais ça fait en sorte qu'en ce moment, on a des leaders conspirationnistes qui, eux, se qualifient de journalistes parce qu'ils entretiennent des sites de désinformation en cherchant toutes sortes de preuves qui viennent alimenter leurs croyances en disant qu'ils ont écrit des articles journalistiques. Donc, tant que le métier de journaliste se protège pas face à la désinformation puis face à ces abus-là, ben il y a un petit problème qui est là, puis je pense qu'il faut vraiment penser comment on peut améliorer les choses pour mieux structurer le métier, puis faire en sorte que le public ait plus confiance et comprenne mieux le métier aussi. Et il faut éviter les errements. Il y en a eu pendant la pandémie. Le conseil de presse a blâmé des médias parce que dans du journalisme factuel, donc du journalisme qui servait à informer, non pas du journalisme d'opinion, mais à certains moments, on a dit ben les touristes tatas qui sont dans le sud et qui ne respectent pas les règles sanitaires, ou les coucous, les covidios, tous des termes qui étaient très connotés et qui n'étaient pas neutres. Donc, le conseil a blâmé des médias qui manquaient de neutralité dans des textes où ils devaient être neutres et objectifs. Donc, ça, c'est après coup qu'on fait cet examen de conscience-là pour améliorer les choses. Mais globalement, je pense que les médias font vraiment bien leur travail. C'est juste d'aider les gens à mieux le comprendre puis à donner une structure qui... à présenter une structure qui donne confiance, disons.
Oui, puis ça, je pense que c'est l'exemple que j'avais en tête quand je pensais justement de quelle façon est-ce que les médias auraient pu contribuer justement à ces clivages-là, puis c'est quand justement, disons, du journalisme qui se veut factuel vient à justement ne pas être neutre, parler de COVIDio, touristata, etc., bien, on dirait que ça fait simplement agrandir le fossé de nous versus eux, et que, bien, de cette façon-là, ça contribue au problème, là. Donc, il y a vraiment cette distinction-là, justement, en ce qui est du journalisme d'opinion, du journalisme factuel. Puis ça, c'est un très bon point que vous avez amené, le fait que le titre de journaliste n'est pas protégé. Mes amis journalistes autour de moi, ils ont tous fait leur bac en journalisme et tout ça. Donc, mais c'est vrai que vous me rappelez justement que n'importe qui peut se dire journaliste, puis que là, ça devient beaucoup plus compliqué. Après, à qui on applique le code de déontologie, quelles sont les mesures, justement, quand il y a un manquement, etc. Donc, c'est effectivement des grosses questions à se poser. Puis, si je me trompe pas, je veux dire, on parle beaucoup de la crise des médias, que l'argent n'afflue pas dans le milieu actuellement. Donc, si on n'a pas assez de ressources, bien, c'est encore plus difficile de mettre des mesures, des ressources en place pour améliorer cette structure-là.
Oui, mais c'est certain que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié en journalisme peut devenir un très bon journaliste, puis tant mieux qu'on ait des gens qui ont étudié en politique, en économie, en santé, puis qui deviennent journalistes, puis qui peuvent justement avoir un regard spécialisé sur des enjeux qu'ils vont couvrir avec beaucoup plus de finesse, puis parfois de compréhension. Ça prend aussi des journalistes généralistes, ça prend de toutes sortes. Mais il faut qu'il y ait un cadre, puis un cadre de confiance, et ça, en ce moment, ça joue pas en faveur des journalistes de pas nécessairement pouvoir dire c'est qui est journaliste. Les définitions sont assez floues du journalisme. Donc, il y a quand même toute une réflexion à y avoir là-dessus, un peu comme justement certaines dérives qu'on a pu voir pendant la pandémie. Moi, ce qui me rassure beaucoup et que j'apprécie vraiment, c'est que je vois chez les journalistes beaucoup d'autocritiques en ce moment, ce que j'ai pas toujours vu au cours de mes années de pratique, là, de recherche, mes années au conseil de presse. Je trouve que les journalistes eux-mêmes ont une très bonne autocritique, sont ouverts à s'améliorer, avouent eux-mêmes leur tort dans certaines situations, sont très conscients du fait aussi qu'ils sont privilégiés dans le sens où les journalistes ont souvent au moins, on le dit, un baccalauréat, ont des études supérieures pour devenir journaliste, ont un bon emploi. Bon, ils gagnent pas une fortune, les journalistes, loin de là, mais sont quand même privilégiés dans la société. Ça fait en sorte que souvent, ceux qui ont une méfiance envers les autorités se sentent un peu loin de journalistes qui, eux-mêmes dans leur tête, sont des figures d'autorité, des figures de gens qui sont bien nantis, qui ne représentent pas nécessairement l'ensemble des classes sociales. Et donc, ce clivage-là est important aussi. Il faut voir peut-être comment mieux intégrer, mieux représenter l'ensemble de la société dans sa diversité sociale, culturelle, économique, pour que les gens se sentent plus représentés par les médias aussi. Mais les journalistes en sont très conscients en ce moment, je pense.
Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour que, oui, c'est une réflexion à avoir, mais pour qu'il y ait des changements concrets? Là, je pense notamment, vous, votre équipe de recherche, récoltez des données sur le sujet, vous avez des faits scientifiques qui montrent bon, quel est l'état, justement, un peu post-mortem après la pandémie, quelles sont les réflexions des journalistes, quelles seraient des pistes de solutions? On amène ça aux institutions qui, eux, après, regardent ça, voient l'état des lieux. Donc, est-ce que c'est un peu ce genre de processus-là qui peut avoir lieu pour qu'il y ait des changements concrets, parce que c'est certain que, bon, redéfinir une structure au complet, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais avec vos travaux, est-ce que c'est un changement qui pourrait s'enclencher?
C'est certain que je pense plus qu'on comprend la situation, plus que ça aide à voir qu'est-ce qu'il faut faire puis comment prendre action. Avec Marc-François Bernier, aussi un collègue de l'Université d'Ottawa, on est en train de mener un sondage sur la confiance dans les médias au Québec puis dans les institutions de régulation justement médiatique. Puis peut-être que ça va aider à voir qu'est-ce qui fonctionne bien, moins bien. C'est certain qu'après ça, il faut que des associations comme la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'Association des journalistes indépendants, le Conseil de presse, tout ça prennent action sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour se renforcer face aux problèmes, comment on peut améliorer nos structures. Et ultimement, comme je le dis, peut-être une autre structure indépendante qui observerait ce qui se passe puis qui donnerait des conseils ou des recommandations sur des grands problèmes structurels des médias pourrait être intéressante. Mais bon, c'est des discussions qui sont dans l'air depuis vraiment de très nombreuses années, de très nombreuses décennies, disons même. Peut-être qu'éventuellement, il va falloir prendre un pas de plus pour voir qu'est-ce qu'on fait là devant la montée de la désinformation pour améliorer les choses du côté des médias. Mais c'est certain qu'aussi, en ce moment, on peut pas tout demander aux médias, alors que beaucoup repose sur les réseaux sociaux numériques. C'était l'autre partie de votre question là, il y a quelques minutes. Et les réseaux sociaux numériques ont quand même un rôle super important face à la montée de la désinformation puis de la méfiance envers les médias. D'abord, comme je le dis, ils mettent un peu toute l'information au même niveau, donc ils ont tendance à faire croire que tout se vaut. Ils sont aussi parfois très réfractaires à mettre de l'avant l'information qui vient des médias traditionnels parce que là, notamment, ils veulent pas donner de redevance aux médias. Il y a tout ce principe-là où les médias disent « bon, on a perdu beaucoup de revenus publicitaires aux mains des grands réseaux sociaux numériques qui, eux, peuvent avoir de la publicité beaucoup plus ciblée sur la tranche d'âge, sur le type de consommation. » Mais les contenus de ces réseaux-là qui viennent chercher le public, ben c'est beaucoup des contenus notamment qui sont tirés des médias traditionnels. Donc, les médias demandent leur part de publicité. Les réseaux sociaux numériques ne veulent pas, donc ils bloquent le contenu de certains médias d'information. On est dans une guerre qui n'est pas toujours saine. Les réseaux sociaux ont été longtemps déresponsabilisés face à la désinformation, puis les gouvernements sont responsables aussi. On a un peu laissé le web s'auto-réglementer alors que ce n'était pas une bonne idée. Il aurait fallu agir beaucoup plus vite. Maintenant, on essaie de rattraper des erreurs qui sont déjà beaucoup plus loin devant, là, mais il y a beaucoup de choses préoccupantes en ce moment. Là, au jour où on se parle, on a par exemple un Twitter qui vient de donner des étiquettes à des médias gouvernementaux, comme quoi c'était des médias que le gouvernement contrôlait dans un certain sens. On dit dans l'étiquette sur Twitter, notamment TBC, que le gouvernement lui dit un peu quoi dire ou influence son contenu, alors que c'est pas du tout ça. Le gouvernement va donner un mandat aux médias, mais n'a pas de droit de regard sur le contenu qui est produit. C'est un financement. Donc, les réseaux sociaux entretiennent une certaine confusion sur les sources d'information. Et il va falloir réfléchir à ça à court, moyen, long terme. Un peu comme on l'a vu dans les algorithmes de fonctionnement qui sont très peu transparents, ces plateformes-là. Mais il y a eu des preuves qu'on poussait de la désinformation parce que ça attirait de la curiosité, ça gardait captif. Puis donc, ça faisait vendre, ça faisait des revenus publicitaires. C'est vraiment des problèmes. Puis ça, ben, je pense qu'à plus long terme, il va falloir voir comment les réseaux sociaux numériques doivent se responsabiliser face à la désinformation.
Puis quand vous avez parlé de l'étiquette sur Twitter, ça m'a fait penser à quelques mois plus loin dans la pandémie. C'est arrivé un peu, ben, peut-être tardivement, là, mais on a commencé à voir, bon, disons qu'il y avait une publication qui était partagée qui parlait du vaccin ou de la COVID-19. Ben là, automatiquement, il y avait une petite bande qui s'affichait en dessous où est-ce que là, si on cliquait dessus, ça nous amenait à un site gouvernemental avec bon, des informations sur la vaccination. Puis moi-même, sur mes épisodes de balado, sur Spotify, aussitôt, je pense que je dis le mot vaccin COVID-19, il y a une petite barre qui s'affiche justement où est-ce que les gens vont cliquer pour en savoir plus, ou sur Facebook, on voyait parfois quand une information était fausse, bien, le truc était bloqué. Donc, est-ce qu'on sait si ces mesures-là ont été efficaces, ou si est-ce que c'est le genre de mesures qui devraient rester? Là, je suis consciente que c'est un terrain glissant après ça devient vraiment à définir, bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puis il y a certains sujets pour lesquels il y a beaucoup de gris, mais est-ce qu'on a des données à savoir si ça a été efficace?
Mais c'est difficile à dire. On a peu de données parce que justement, les réseaux ne partagent pas nécessairement toujours toutes leurs informations. Il y a eu beaucoup de laxisme. Ça, c'est un problème. Pendant la pandémie, c'est quand on a vu là, à quel point la désinformation, les fausses nouvelles, le conspirationnisme devenaient un problème pour gérer la pandémie. Où là, les plateformes, quand ils ont vu que il allait être accusé d'avoir contribué au problème. Ils sont mis à prendre des mesures. Donc, c'est des mesures qu'on a prises vraiment au cas par cas, à mesure. Donc, d'une plateforme à l'autre, on les a pas adoptées au même moment ni au même niveau. Donc, c'est tellement disparate que, un, ça va être dur à mesurer, puis deux, bien, ça n'a pas le même effet parce que là, l'effet ne va pas être uniforme. C'est à différents moments que chaque plateforme a pris action. Donc, déjà, ouais. Ça, c'est un problème. Ensuite, je crois que d'avoir des avis où on dit, ben si vous voulez des sources fiables, des centres d'information sur la COVID, on avait vu ça notamment sur Facebook, rediriger vers un centre d'information qui est basé justement sur soit des sources scientifiques ou médiatiques qui viennent des médias traditionnels, je pense que c'est des très bonnes choses. Donc, d'avoir des redirections en disant, ben écoutez, soyez prudents face à cette information-là, elle pourrait être fausse, puis voici un centre d'information avec des données vérifiées, fiables. Sur un sujet, c'est une très bonne chose. De dire aussi, selon, bon, on a vu finalement des groupes de vérification de faits qui sont mis en place puis qui faisaient des mentions sur des publications Facebook en disant, selon tel groupement, cette information-là semble fausse ou semble manquer de nuances, puis on redirige vers une vérification de faits qui est publiée en ligne, c'est des bonnes choses. Par contre, dire carrément c'est faux puis on bloque du contenu qui s'avère faux, je pense que c'est contre-productif. Ça, c'est mon avis bien personnel, mais pour deux raisons. De un, la personne qui croit à ce contenu-là faux ou qui croit aux thèses complotistes, on lui dit « on censure ton contenu parce qu'il est faux », mais souvent, ça a l'effet contraire. On va dire « ben voilà, on bloque la vérité parce qu'on veut pas que la vérité se sache ». Et on le voit vraiment dans les cercles complotistes. Souvent, le fait que des vidéos aient été bloquées pendant la pandémie, c'est des vidéos complotistes qui avaient vraiment de savoir complotiste, là, on en a vu plusieurs, là, plandémique, etc. Ben le discours va être « c'est pas faux ». On censure la vérité parce qu'on veut pas qu'elle circule au grand jour, donc les grandes puissances nous censurent. Alors, à chaque fois qu'on coupe du contenu puis qu'on donne pas accès à du contenu, ça nourrit un peu ce discours de méfiance-là où on cache la vérité. Dépêchez-vous à le partager avant qu'il soit censuré et bloqué. L'autre élément, c'est que la vérité évolue, hein. Donc, à un certain moment, la pandémie, ça semblait complètement farfelu de penser, par exemple, que le virus aurait pu être créé en laboratoire. À d'autres moments, c'est pas si clair que ça. Il a pu être créé volontairement, involontairement en laboratoire, être diffusé. Donc, si on dit on bloque tout ce qui dit que ce serait créé en laboratoire, ben, est-ce qu'on est en train de s'empêcher un jour d'avoir une vérité plus nuancée? La vérité évolue, la science évolue. Donc, il faut être très, très sensible face à qu'est-ce qu'on bloque. Moi, j'ai tendance à penser que la censure n'est jamais une bonne chose. Par contre, de donner d'autres sources, d'expliquer comment une source peut être considérée fiable, de donner plusieurs sources pour que la personne se fasse un avis. Ce que font les vérificateurs de faits, ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est ce niveau-là qui est... c'est difficile de mesurer après, mais moi, je pense que déjà, tout le monde ne s'entend pas sur l'importance, notamment en journalisme, des vérificateurs de faits, mais juste d'avoir des listes avec plusieurs sources, puis quand on cherche sur un moteur de recherche, mais différents points de vue sur un sujet, moi, je trouve que c'est sûr que c'est une bonne chose. Ça apporte une nuance, puis c'est la même chose, donc, sur ces plateformes-là, de donner de l'information plus nuancée sans nécessairement censurer.
Puis ça me fait beaucoup penser quand vous mentionnez qu'un des enjeux, c'est justement la moins bonne compréhension du travail des journalistes, mais j'ai l'impression que la mauvaise compréhension du travail des scientifiques, de comment justement on tente avec la démarche scientifique de se rapprocher de la vérité, de faire en sorte qu'il y ait un consensus scientifique, c'est vrai un jour, mais ça peut évoluer dans le temps, c'est dynamique, j'ai l'impression que... Tout ce concept-là de comment fonctionne la science, la réaction qu'il y a eu du public, ça montre que justement un manque de compréhension par rapport à ça et que s'il y avait peut-être une meilleure éducation justement de la même façon de comment travaille un journaliste et comment travaille un scientifique, comment on arrive à obtenir une évidence scientifique, c'est quoi une évidence scientifique concrètement, probablement que ça aiderait à cultiver peut-être un meilleur esprit critique qui ne fait pas en sorte qu'on est capable d'obtenir toutes les réponses et de distinguer le vrai du faux facilement, mais qu'on est au moins capable de poser un regard critique et d'être porté peut-être à aller regarder d'autres sources avant de se faire une opinion sur un sujet.
Je suis tout à fait d'accord. C'est tellement important, puis c'est un problème. Ça aussi, c'est censé être une compétence qu'on acquiert à l'école transversale, de comprendre le fonctionnement de la science, mais c'est tellement peu présent. Il y a tellement peu de gens qui comprennent comment se construit une étude scientifique, comment lire une étude scientifique aussi, c'est quoi une méthodologie de recherche, pourquoi justement selon l'échantillon, selon la méthode, on n'arrive pas toujours au même résultat, mais que c'est toutes ces recherches-là avec des regards différents qui emmènent vers un consensus scientifique puis vers une meilleure compréhension d'un objet. Et même dans des gens qui ont des études universitaires avancées, des gens qui ont étudié en médecine, parfois comprennent même pas très bien comment fonctionne la recherche scientifique parce qu'eux ont appris à administrer des protocoles, à savoir comment appliquer la bonne recette pour un problème, mais derrière ça, quand justement cette compréhension-là d'une maladie évolue, on ne comprend pas toujours d'où vient cette évolution-là parce qu'on n'a pas nécessairement appris le fonctionnement de la science. Donc, c'est un problème qui est omniprésent partout. Puis plus qu'on va comprendre la science, plus qu'on va lui faire confiance. Et là, on a besoin d'avoir de l'éducation à la science, d'avoir aussi plus de journalistes scientifiques, parce qu'on en a très peu au Québec, des journalistes scientifiques. Ouais. Et ils voyaient beaucoup de journalistes scientifiques à qui on parlait pendant la pandémie, disaient les gens, comprennent pas, on rapporte une étude, on en rapporte une autre après qui apporte une nuance ou qui dit pas tout à fait la même chose. Puis là, les gens nous accusent de mentir alors que c'est pas ça, c'est juste que les recherches vont dans différents sens. Et je pense que ça aussi, la pandémie a permis à beaucoup de scientifiques de voir que c'était un problème. J'entends de plus en plus parler de vulgarisation scientifique, communication scientifique. On essaie de plus en plus de trouver des façons de donner des outils aux scientifiques aussi pour mieux communiquer leurs travaux, pour les rendre accessibles à la population. Et c'est un autre problème. Les scientifiques n'étaient pas très formés à la communication, à la vulgarisation. On commence à donner des outils, mais il y en a encore très peu, puis c'est plus uniforme ça aussi. Mais je pense que toutes les initiatives de vulgarisation puis de communication scientifique sont vraiment une bonne chose. En même temps, les réseaux sociaux numériques ont l'autre problème où il faut parfois être courageux pour faire de la vulgarisation scientifique. Ouais. Parce que sur plein de sujets, même des sujets qu'on penserait pas qui sont nécessairement des sujets qui vont créer des conflits, j'ai des collègues qui ont reçu des insultes, des menaces. Donc, il faut parfois être très fort et très solide pour vouloir faire de la vulgarisation scientifique. Il va falloir aussi trouver des façons de mieux protéger les experts puis de leur donner vraiment des ressources pour faire face aussi à ces réactions-là. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. En tout cas, nous, pendant la pandémie, je suis notamment sur le... Je suis sur le groupe, dans le fond, qui encadre la science d'abord. Donc, c'est une initiative qu'on a mis en place pendant la pandémie avec beaucoup de collègues où on essaie justement sur les réseaux sociaux de diffuser des consensus scientifiques pour rectifier de la fausse information qui circule sur différents sujets ou de la nuancer. Et donc, on voit que ça a l'air à fonctionner tranquillement, à petite échelle. C'est sûr que ça change pas le monde, mais je pense que c'est des initiatives comme celle-là qui, la science d'abord, veut vraiment dire, ben on va prendre un consensus scientifique sur un sujet, le rendre accessible à tout le monde, le mettre en image pour que les gens puissent le partager. Puis quelqu'un qui a vu de la fausse information, ben, à un moment donné, va voir celle-là qui est plus nuancée, puis ça va peut-être lui permettre de cheminer. C'est pas rare depuis que je suis sur le conseil là, de la science d'abord que j'ai partagé à des amis, à de la famille, des vulgarisations parce qu'ils m'avaient parlé d'une rumeur qu'ils avaient entendue ou d'une information qui venait d'une source ou d'une autre, mais qui manquait vraiment de nuances. Donc, c'est ce genre de projet-là, je pense, qui est porteur puis qu'il faut essayer de soutenir. Ouais.
Puis si jamais les gens sont curieux de savoir ce que c'est la science d'abord, j'ai reçu Elias Aïssa qui travaille pour la science d'abord, je crois que c'est l'épisode 19 ou 20, là. Donc en tout cas, si les gens sont curieux, c'est une très belle ressource. Puis dans mon cercle d'amis, on est quelques-uns aux études supérieures qui ont aussi des projets de vulgarisation scientifique. Puis une chose aussi qui va peut-être être à bâtir ultimement, ça va être aussi de développer des outils pour évaluer l'effet de ces initiatives-là, parce que oui, c'est bon, un bon point de départ, il faut s'outiller pour être capable de le faire, donc on est quand même encore dans les balbutiements pour tout ça, mais des fois, on se demande, au-delà des messages d'abonnés qui nous disent merci, qui ont appris quelque chose, on ne sait pas vraiment à qui on rejoint, à quelle mesure, est-ce que c'est réellement efficace, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le travail qui est fait. Donc ça, je pense aussi, ça va être utile prochainement d'avoir des façons d'évaluer ces initiatives-là pour mesurer leur impact.
Oui, bien, je pense toutes les initiatives qui vont viser à éduquer le public, à mieux comprendre la science, le politique, le système démocratique, puis le médiatique, comme je le disais, c'est des initiatives qu'il va falloir aussi évaluer, voir leur impact à court, moyen, long terme. Puis ça, c'est un problème. On le voyait aussi avec la Charte quand on parlait de prévention de la radicalisation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives qui ont été faites en prévention de la radicalisation s'évaluaient pas ou s'évaluaient de façon interne et très limitée juste pour faire de la reddition de comptes puis être refinancée. Mais si on veut que nos actions soient efficaces puis miser sur les plus efficientes et les plus structurantes, ben il faut les évaluer. Donc ça, forcément, je pense que l'avenir passe aussi par là, évaluer ce qu'on fait, voir comment on peut l'améliorer puis peut-être se concentrer sur les meilleures initiatives aussi.
Tout à fait. Écoutez, je vois le temps qui file, puis je veux être respectueuse du temps qu'on avait ensemble. Je parlerai de ça pendant des heures. Je trouve ça tellement intéressant. Mais pour conclure tranquillement, on a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui. S'il y avait trois grands concepts ou trois choses que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de notre discussion, que ce soit par rapport, bon, on a parlé des médias, on a parlé du portrait du complotisme au Québec, dans le monde, etc., des réseaux sociaux numériques, de prévention, etc. Donc, parmi tout ça, est-ce qu'il y aurait trois messages clés que vous aimeriez que les gens retiennent?
C'est difficile, trois messages clés. En effet, on aurait pu en parler des heures, puis ça m'aurait fait vraiment plaisir. Mais je pense que d'abord, le premier message clé, si on pense au conspirationnisme, c'est l'ouverture. Donc, de ne pas être dans le jugement, mais d'essayer d'être dans une approche compréhensive pour être là pour les personnes qui ont besoin de soutien, puis comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, ce n'est pas nécessairement juste un problème individuel aussi, c'est un problème de société. Donc, deuxièmement, je pense que mon deuxième conseil, c'est en tant que société, on a à se regarder. Bon, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en ce moment, on a une crise de confiance aussi grande envers toutes nos institutions? Est-ce qu'on n'a pas été toujours à l'écoute des minorités, à l'écoute de certaines franges de la société? Et là, qu'est-ce qu'on fait pour rebâtir cette confiance-là? Donc, il faut mettre en place des initiatives pour redonner la confiance dans toutes nos institutions et puis les évaluer, ces initiatives-là, pour voir comment elles fonctionneraient à moyen et long terme. Et troisièmement, je pense que en tant que public, on a une responsabilité. On ne doit pas partager l'information si elle n'est pas validée, si on n'a pas été voir les sources d'information. Et donc, être conscient que même si on ne doit pas accorder notre confiance absolue à aucune source, là, scientifique, médiatique, on ne devrait pas accorder notre confiance aveugle, mais au moins aller valider, confronter les sources d'information, aller lire 3-4 articles sur un sujet avant de le partager puis de le prendre comme acquis. Ça prend du temps. On est dans une société qui manque de temps, mais on a quand même une responsabilité individuelle à s'informer sur c'est quoi une source fiable, non fiable, c'est quoi le fonctionnement des médias, puis comprendre le journaliste factuel, le journaliste d'opinion, puis donc à pas partager, juste pas partager si on n'a pas eu le temps de valider justement une information pour pas contribuer au problème.
Mm-hmm. Oui, je pense que des fois, on est rapide à partager avant d'avoir lu l'entièreté de l'article, etc., mais de prendre ces quelques secondes, quelques minutes-là pour réfléchir pour être bien utile. Donc, c'est trois bons messages. Et
je pense qu'il faudrait que j'en ajoute un quatrième falloir aussi, en tant que société, qu'on réfléchisse à l'avenir des médias. Je pense qu'on ne pourra pas éternellement juste laisser la situation perdurer. Il va peut-être falloir voir est-ce qu'on refinance les médias parce que c'est un bien public qui nous préserve de la désinformation. Qu'est-ce qu'on fait en tout cas, mais en tant que société, on a une responsabilité aussi face finalement aux problèmes que vivent les milieux journalistiques en ce moment, puis il va falloir peut-être voir mieux structurer, mieux l'encadrer. Donc ça aussi, on ne pourra pas être dans l'inaction éternelle là, face à ce qui se passe.
Mm-hmm. Puis c'est intéressant parce qu'autant qu'on pourrait avoir l'impression que, bon, je ne suis pas journaliste, ça ne me concerne pas, c'est leur problème, mais non, les messages, le fonctionnement des médias nous impactent dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas seulement ce milieu-là, c'est vraiment comme société, comme vous dites, qu'il faut qu'on se regarde et qu'on revoie leur situation. Et est-ce que vous auriez, en terminant aussi, peut-être trois suggestions de lecture? Ça peut être, sur les sujets qu'on a discuté. Peut-être si des gens sont curieux de poursuivre ces réflexions-là. Puis je vais me permettre d'inclure dans les trois votre livre. Vous pouvez en ajouter trois autres au besoin, mais moi, je recommande vraiment « Mon frère est un complotiste ». C'est vraiment une lecture que j'ai trouvée formidable, très facile à lire aussi, bien accessible. Donc, autre que celui-ci, si vous en avez trois autres, vous êtes bienvenue de les partager.
Mais merci beaucoup. On a vraiment essayé de faire justement un livre qui était grand public, accessible, puis très vulgarisé. Donc, tant mieux si on y a réussi. Là, on l'avait vraiment à cœur. Je sais qu'il y a des collègues qui ont fait des ouvrages assez intéressants puis semblables aussi. Donc, vous pouvez aller voir les ouvrages, notamment que les collègues Sylvain Delouvet ont écrit en France. Donc, il y a différents ouvrages quand même grand public sur le conspirationnisme qui ont été diffusés, qui sont vraiment intéressants. Je pense aussi que ce que fait notamment le Centre d'études sur les médias, sur l'état des médias, sur la désinformation, est vraiment intéressant à aller consulter, assez accessible en général aussi. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se font sur la désinformation en ce moment, sur les médias aussi qui sont très intéressants à aller consulter. Je pense que quelqu'un aussi qui ne connaît pas justement le fonctionnement des médias devrait aller faire un tour sur le site du Conseil de presse du Québec juste pour comprendre un peu le code de déontologie, le fonctionnement de l'organisme. Donc, ça peut être des ressources qui sont vraiment intéressantes là, à aller consulter pour mieux comprendre le fonctionnement des médias.
Des super bonnes ressources, puis je les mettrai dans la description de l'épisode pour les auditeurs et auditrices. Et si les gens sont curieux, curieuses de suivre vos travaux, ce que vous faites, est-ce qu'il y a des endroits où on peut suivre votre charte de recherche et vous suivre, vous?
Oui, certainement. La chaire de recherche a son site web, donc vous pouvez aller voir sur le site là, de la chaire UNESCO-PREV. On met en général nos rapports, on met notre rapport annuel avec tous nos projets. Donc, et la chaire UNESCO-PREV aussi est sur Facebook, sur Twitter, donc vous pouvez la suivre. Comme je le disais, sinon moi j'ai mon Facebook, mon Twitter, je suis par période plus assidue que d'autres, mais on peut me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le département de communication de l'Université de Sherbrooke aussi qui partage beaucoup de choses que l'équipe du département fait, donc mes collègues aussi qui font plein de travaux extraordinaires donc sur le site du département de l'Université de Sherbrooke.
Excellent. Donc, ça se retrouvera également dans la description de l'épisode pour les auditeurs et auditrices. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Carignan, d'être passée au balado. C'était vraiment fascinant, super intéressant comme discussion. Puis, j'ai hâte de voir la suite de vos travaux. On est sur beaucoup de grandes questions, de grandes réflexions qui sont importantes pour le futur de notre société, le maintien de notre démocratie. Donc, bravo pour ce que vous faites. Puis, j'ai très hâte de voir la suite.
Merci beaucoup de l'invitation. Puis oui, on a beaucoup à faire encore pour rétablir la confiance. On commence juste à comprendre ce qui se passe. Et j'espère que même un petit pas pour améliorer les choses, c'est déjà un pas important.
Oui, je suis une éternelle optimiste, donc je me dis lentement, mais sûrement, on va y arriver.
C'est ça.
Merci beaucoup.